Que le Seigneur vous bénisse, Frère Neville. Je suis tellement heureux d'être de retour à l'église ce soir, seulement un peu enroué. Ce fut un assez long message ce matin. Je suis vraiment content que cela soit ici, quoique j'ai apprécié cela moi-même en l'amenant, et j'espère que vous avez apprécié l'entendre. N'oubliez pas maintenant, souvenez-vous toujours de ceci, que le serviteur de Christ est édifié par ces choses. Voyez, d'abord la foi, ensuite la vertu. Et maintenant, souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer l'édifice de Dieu jusqu'à ce que ces choses opèrent par l'Esprit. Voyez, peu importe ce que vous faites, voyez, ce sont les choses qui bâtissent le corps de Christ. Voyez ces choses. Maintenant, n'oubliez pas cela, que ceci ici est en premier. Cela est votre foi, la vertu, la connaissance, et ainsi de suite. Cela doit être ajouté à cela, jusqu'à ce que la complète stature de Christ soit manifestée. Ensuite, le Saint-Esprit vient sur cela et le scelle comme un corps. Ces choses doivent être. Donc Jésus a dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Voyez, les fruits, vous ne pourriez pas porter de fruits sans ces choses pour les porter en vous. Et ensuite, lorsque tout ceci prend la place de la mondanité et de l'impiété, et ainsi de suite, alors toute incrédulité est chassée, alors toutes les choses du monde sont passées, et alors il ne reste plus qu'une nouvelle créature en Christ. Et ensuite, Éphésiens 4:30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Scellés dans le royaume de Dieu. Maintenant, n'oubliez pas cela. Gardez cela en mémoire maintenant. Cela prend ces choses premièrement. Ensuite, le scellement, c'est le Saint-Esprit, la pierre de fait qui vous scelle dans le corps. Très bien. Nous avons une requête maintenant pour Sir Little de Chicago. Son mari a eu un accident d'automobile et il est sur le point de mourir. Sir Little et Edith Wright, notre petite sœur que nous connaissons depuis si longtemps, elle va très mal. Elle est chez elle ce soir et il voulait l'annoncer à l'église afin que nous puissions tous prier ensemble pour cette requête. Et maintenant, inclinons nos têtes juste un moment. Notre précieux Père Céleste, nous sommes réunis autour par la foi du trône de Dieu et nous te demandons ta miséricorde divine pour ces requêtes. Frère Little, un accident d'auto près de la mort, ô Dieu, aide-le, que le Saint-Esprit soit à son chevet et ramène-le nous, Seigneur. Et la petite Edith Wright, là-bas, je prie, Dieu, que le Saint-Esprit veuille être aux côtés de son lit ce soir et restaurer sa santé à nouveau. Accorde-le, Père. Tu as promis ces choses et nous les croyons. Et comme nous l'avons figuré ce matin, cette distance n'a pas d'importance pour toi. Tu es aussi grand dans une partie du monde que tu l'es dans l'autre, parce que tu es omniprésent, omnipotent et infini. Et nous prions, Père, que tu puisses accorder ces requêtes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux d'être de nouveau ici ce soir. Je sais qu'il fait chaud. Ceci est la troisième réunion consécutive et c'est... Je sais que certains d'entre vous ont jusqu'à 500 000 à voyager d'ici à demain matin et commençant après-demain, j'en ai 1400 à conduire après cela. Alors donc, j'ai confiance que cela fut un merveilleux temps pour vous tous. Ce fut merveilleux pour moi de vous visiter. Il y a seulement une requête que nous avons, il y en a tellement qui n'ont pas pu entrer car il n'y a pas de place. Nous ne pouvons pas bloquer les allées, le service des pompiers ne le tolérerait pas. Nous essayons maintenant de trouver une église un peu plus grande, afin que lorsque nous sommes à l'intérieur, nous puissions avoir de la place pour asseoir les gens. Et maintenant, n'importe quand, vous êtes toujours les bienvenus ici au tabernacle, où nous n'avons aucun credo sauf le Christ, aucune loi sauf l'amour, aucun livre si ce n'est la Bible. Et notre pasteur ici est notre frère Orman Neville. Et nous avons une assemblée ici de plusieurs fidèles qui se rassemblent comme un tabernacle interdénominationnel où vous venez ici et adorez Dieu comme votre propre conscience vous le dicte. Nous sommes toujours heureux de vous avoir. Venez lorsque vous le pouvez, nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Et maintenant, la prochaine fois, en autant que je le sache, je serai avec vous lorsque l'Église sera complétée. Et je veux en ce temps-là, nous avons eu les âges de l'Église, maintenant nous voulons enseigner les 7 derniers sceaux du livre de l'Apocalypse. Et maintenant, il y a souvent des malades et des affligés qui viennent durant ces réunions où les visions sont requises et ils viennent pour des entrevues spéciales. Si je rentre dans cela, alors je ne peux simplement pas faire la différence entre eux. Vous savez, c'est difficile pour moi de parler après cela. Et tous savent que dans nos campagnes de guérison, que M. Baxter ou quelqu'un prêche habituellement, je sors juste pour prier pour les malades parce que c'est un peu fatigant. Et je priais pour des gens il y a quelques instants et ensuite j'ai rencontré un petit enfant ici que les docteurs, quelque chose dans son dos, il est né de quelque manière. En sortant, je l'ai vu assis dans un plâtre. Cet enfant n'aura plus jamais à être infirme comme cela. Il ira bien, certainement, voyez. Je sais cela. Voyez, je suis positif pour cela. Ainsi, nous voulons avoir notre foi et croyance en Dieu. Chacun de vous et plusieurs d'entre vous me sont étrangers, tous ces ministres et ainsi de suite. Et si je ne me trompe pas, c'est Frère Chris. Est-ce vrai, Frère Chris? Je vous dois une excuse pour ne pas avoir pu me rendre là-bas à cette dédicace. Peut-être vais-je y monter pour une réunion de fin de semaine. Ce sera aussi bon. Est-ce vrai? C'est à Bloomington. Allez-vous bien? Parfait. Certains de ses frères ici sont des ministres, je suppose. Êtes-vous un ministre? Oui, monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. Combien de ministres sont-ils dans le bâtiment? Levez votre main. Eh bien, c'est très bien. Nous sommes heureux de vous avoir ici, tellement heureux. Que Dieu vous bénisse à jamais. Maintenant, afin que nous puissions sortir très tôt, quelques-uns s'en vont en Géorgie, au Tennessee et à New York, en tout lieu à partir de ce soir. Maintenant, conduisez prudemment le long de la route. Si vous devenez fatigué et que vous ne vouliez pas aller dans un motel, stationnez-vous au côté du chemin et dormez jusqu'à ce que vous... C'est comme cela que je le fais. Voyez, juste se ranger sur le côté et dormir. Ne conduisez surtout pas pendant que vous vous endormez. C'est une chose mauvaise. Et souvenez-vous, ce n'est pas vous. C'est l'autre gars que vous devez surveiller. Voyez, vous savez où vous allez, vous ne savez pas où il va. Alors vous devez surveiller ce gars-là. Alors soyez certain d'être alerte en tout temps pour surveiller cela. Maintenant, je désire lire ce soir une portion de l'Écriture prise dans le livre de Saint Jean. Maintenant, ces petites Écritures que nous lisons et auxquelles nous nous référons, c'est pour nous donner une base pour ce que nous essayons de dire. Et toujours, je n'ai jamais à ma connaissance, je ne suis jamais venu à la chair, essayer de dire quelque chose juste pour parler. J'essaie toujours d'attendre, de veiller, d'étudier, de prier, jusqu'à ce que je sente que j'ai quelque chose qui va aider les gens. Si je ne peux pas être un aide, alors je n'ai pas besoin d'être ici, voyez-vous. C'est d'essayer de vous aider. Et maintenant, ce soir, bien sûr, la majeure partie de notre auditoire est partie dès ce matin. Ils devaient rentrer à la maison, plusieurs d'entre eux. Mais ce soir, je vous ai dit que si vous restiez, nous essayerions d'avoir une petite leçon d'environ 45 minutes sur quelque chose qui, j'espère, va nous aider. Et nous allons baser cela maintenant sur Saint Jean, le 16e chapitre, et nous commencerons environ au 7e verset du chapitre 16 et lire jusqu'au 15e verset. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Maintenant, au verset 13. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole. Car il parlera, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, il dira ce qu'il aura entendu. En d'autres mots, il sera celui qui révélera la chose, vous voyez? Et le 4e chapitre des Hébreux, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante et plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées du cœur. Voyez, ce qu'il aura entendu, il le dira et vous montrera des choses à venir. Voyez, qu'est-ce qui va faire cela? Le Saint-Esprit qui viendra au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais prendre ces quelques minutes qui viennent pour attirer votre attention sur le mot « guide ». Un guide. Vous savez, j'ai eu bien des expériences dans les bois. Un guide, quelqu'un qui vous fait voir les alentours. Vous devez avoir un guide lorsque vous ne savez pas où vous allez. Et étant familier avec la chasse et des environs, j'ai eu l'occasion de rencontrer des guides. Et je suis un guide moi-même au Colorado parce que connaissant le pays, étant familier au ranch et ainsi de suite, je peux être un guide au Colorado. Maintenant, un guide doit connaître la région. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait et comment prendre soin de vous le long du chemin. Voyez, il doit voir à ce que vous ne vous perdiez pas. Un guide est un homme sélectionné. L'État choisit cet homme s'il est un guide. Maintenant, en allant faire un voyage dans une région inexplorée, où vous n'êtes peut-être pas habitué à aller, ce n'est pas une bonne chose d'y aller sans lui. Franchement, à certains endroits, vous ne pouvez même pas y aller sans un guide. Par exemple, au Canada, le guide doit signer votre licence au garde forestier. Il doit s'assigner lui-même et il est responsable pour vous. Si quelque chose vous arrive, c'est sa responsabilité. Il doit prendre soin de vous. Il doit s'assurer que vous ne soyez pas perdu. Il doit être sûr qu'il ne vous envoie pas quelque part où vous ne connaissez pas le chemin du retour. Et si vous vous perdez, il doit connaître la région tellement bien qu'il peut vous retracer en tout temps. Il doit savoir toutes ces choses, sinon il ne peut pas être un guide. Il ne peut pas avoir une licence pour être un guide. Pour ces choses, parfois, vous avez besoin d'un rendez-vous, appeler d'avance et faire des arrangements, avoir des réservations de prise. Et si votre... Parfois, il est occupé, il ne peut pas vous prendre. Vous devez remettre ça plus tard, avec le guide terrestre. Vous n'avez jamais à faire ça avec le guide de Dieu. Il est toujours prêt, toujours prêt. Maintenant, si vous ne faites pas ces préparatifs, et que vous ayez l'intention de faire un voyage dans un lieu sauvage où vous n'êtes jamais allé auparavant, vous pouvez vous perdre et périr. Vous avez environ une chance sur 100 de sortir de la brousse. Si ça n'est pas trop dense, vous aurez une chance sur 100 de vous en sortir vous-même. Mais si c'est très sauvage au loin, vous n'avez aucune chance d'en sortir. Il n'y a pas moyen de le faire, parce que vous vous retrouvez sur la marche de la mort, et ensuite, c'en est fait de vous, vous êtes fini. Maintenant, vous périrez si vous n'avez pas de guide qui connaît la région et sait comment revenir. Plusieurs d'entre vous sont familiers avec l'article que vous avez lu l'an dernier à Tucson, en Arizona, ces Boy Scouts. Par exemple, ils étaient entraînés à savoir comment prendre soin d'eux-mêmes. Ils étaient des scouts. Ils n'étaient pas juste des louveteaux. Ils étaient des scouts accomplis. Et ils ont fait une excursion là-haut dans les montagnes. Une tempête de neige est survenue. Les conditions de la nature ont changé. Eh bien, ils se sont perdus et ils ont tous péri. C'est parce qu'ils, quelque chose, un changement est survenu à part de la routine régulière. Ils ne savaient pas comment s'en sortir, voyez. Et je ne me souviens pas combien de garçons il y avait qui ont péri dans la montagne. Bien qu'ils avaient des hélicoptères, la garde militaire est sortie, les gardes nationaux, l'aide volontaire et tout, mais ils étaient perdus, personne ne savait où ils étaient. Ils ne pouvaient pas prendre soin d'eux-mêmes. Ils ont tous péri dans la neige parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient à l'est, au nord, à l'ouest ou au sud, en haut ou en bas, ou comment c'était, tout semblait pareil. Maintenant, un guide sait où il est, peu importe la température, il est équipé pour faire ça. Il sait ce qu'il fait, tout lui est familier, il reconnaît toutes les apparences s'il est dans la noirceur et il peut sentir une certaine chose. Par exemple, voici un vieux truc pour un guide. Vous savez, si vous pouvez voir les étoiles, n'importe qui peut dire de quel côté il va si vous observez les étoiles. Et vous voulez toujours observer la seule véritable étoile. Il y a seulement une véritable étoile, et c'est l'étoile polaire. Voyez, seulement une, elle se tient au même endroit. Cela représente Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Certaines vont peut-être errer, mais lui demeure le même. Les églises vont peut-être vous attirer de ce côté ou vous attirer de cet autre côté, mais pas lui, il est toujours le même. Amen. Eh bien maintenant, si vous ne pouvez pas voir cette étoile polaire, si c'est nuageux, ensuite si vous remarquez, si c'est pendant le jour et que vous soyez perdu, si vous observez les arbres, l'arbre est toujours, la mousse est du côté nord de l'arbre, parce que le côté sud de l'arbre reçoit plus de soleil que le côté nord. Mais qu'en est-il s'il fait noir et que vous ne pouviez pas voir la mousse? Si vous fermez vos yeux et que vous ne pensiez à rien, fermez vos yeux et allez vers un tronc d'arbre lisse. Mettez vos mains autour de l'arbre comme ceci jusqu'à ce que vos doigts se rejoignent. Et ensuite, commencez à vous déplacer autour de l'arbre très lentement. Et lorsque vous arrivez à un endroit où l'écorce est très épaisse, écorchée, c'est le côté nord, les vents. Et vous pouvez savoir de quel côté vous vous dirigez, nord ou sud. Et c'est de cette manière. Oh, il y a bien des choses, mais ça prend des guides pour savoir comment faire ces choses. Un homme ordinaire monte là et il dit, je ne vois pas de différence en cela. Voyez, voyez, vous devez être entraîné pour guider. Et ces garçons, sans doute qu'ils étaient de bons scouts. Ils étaient peut-être capables de lier des nœuds, d'allumer un feu avec des pierres, et ainsi de suite. Mais l'idée était de savoir comment s'en sortir. Ils ne savaient pas comment s'en sortir. Ils ont tous péri parce qu'ils n'avaient pas un guide avec eux. Un père négligent, il y a 2 ans, Colorado, oh, il monta au sommet des montagnes avec son petit garçon de 6 ou 7 ans. C'est la première fois qu'il l'amena à la chasse au chevreuil. Alors ils sont montés très haut sur la montagne. Et le petit garçon dit à son père, « Je commence à être fatigué. » Le père dit, « Monte sur mon dos. Nous ne sommes pas montés assez haut, les chevreuils sont plus hauts. » L'homme continua et continua et continua jusqu'à ce qu'il arrive. Il ne savait pas, il était un homme de la ville. Il ne connaissait rien de la chasse ni où aller. N'importe quel homme qui connaît quelque chose de la forêt sait que les chevreuils ne demeurent pas très haut. Ils ne montent pas là-haut. Les chèvres demeurent là, pas les chevreuils. Ils sont en bas où ils peuvent se nourrir. Ils doivent se rendre où il y a quelque chose à manger. Et alors, mais cet homme a pensé, si je monte très haut dans les rochers quelque part, je vais trouver un gros chevreuil. Il avait vu une photo de quelqu'un se tenant sur un rocher. Il pensait que c'est là qu'il le trouverait. Ne portez pas attention à ce que ces magazines disent. Oh my, vous aurez un cauchemar. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de prendre un guide qui sait où vous êtes. Et ce père, il commence à pleuvoir tout à coup là-haut, une de ces pluies soudaines qui viennent. Et l'homme chassa trop tard jusqu'à ce qu'il fasse noir. Et il ne pouvait plus trouver son chemin de retour. Ensuite, les vents sont venus du haut des montagnes. Et lui-même se déplaçait rapidement. Vous devez savoir comment survivre si vous êtes pris au dehors. C'est quelque chose, savoir comment survivre. J'ai grimpé en haut des arbres et j'ai glissé en bas, grimpé dans les arbres, glissé en bas, de haut en bas comme cela, pour rester en vie. J'ai ôté de la neige quand il y en avait 4 pieds de chaque côté, abattre une souche et la coucher par terre. Avoir tellement faim que je pouvais à peine endurer ça. Abattre ces vieilles souches, les allumer et les laisser bien chauffer et fondre la neige. Et ensuite, vers 1h du matin, 2h, retirer ces souches et me coucher sur ce sol chaud pour rester en vie. Et vous devez savoir comment faire ces choses. Et cet homme ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait personne avec lui pour le diriger. Et il a tenu son propre petit garçon contre sa poitrine jusqu'à ce qu'il le sente refroidir et mourir. La négligence. S'il avait juste pris un guide avec lui, il aurait pu le ramener en bas de la montagne, peu importe l'heure qu'il était, voyez. Mais il a attendu qu'il fasse noir. Ensuite, il ne pouvait plus reconnaître son chemin. C'est ça le malheur avec les chrétiens aujourd'hui. Ils attendent que la noirceur s'installe et ensuite vous découvrez que vous avez oublié le guide. Le guide. Eh bien, avez-vous déjà vu un homme qui s'était perdu? Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'expérience de ramener un homme qui s'était perdu? C'est la chose la plus pitoyable que vous ayez à voir. Lorsqu'un homme se perd, il devient fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. Nous avons trouvé un homme une fois, un garçon, Il s'était perdu dans les bois, il avait pensé. Il était un employé d'un ranch, mais il était dans le mauvais territoire. Il s'était perdu, il tournait en rond. Et lorsqu'ils l'ont trouvé 3 jours plus tard, il courait comme un fou, criant à toute voix. Ses lèvres étaient toutes mangées, il avait jeté son fusil et il ne savait pas quoi faire. Et lorsque son propre frère, quand ils ont dû l'attraper et l'attacher, lorsque son propre frère est venu vers lui, il l'a attaqué comme un animal, essayant de le mordre. Il ne savait pas où il était. Pourquoi ? Il était perdu. Et lorsqu'un homme est perdu, il est dans un état d'égarement. Et il ne sait pas qu'il est dans cet état. En étant perdu, la fièvre monte en lui. Et il ne sait pas où il est, comment il agit. Ainsi en est-il lorsqu'un homme est égaré de Dieu. Il va faire des choses qu'il ne ferait pas ordinairement. Il fera des choses qui sont au-delà des pensées de ce que fait un être humain. Un homme égaré de Dieu, une église égarée de Dieu, une église éloignée de Dieu, éloignée des principes de la Bible de Dieu, fera des choses qui parfois vous ne vous attendrez pas de trouver dans une église du Dieu vivant. Ils prélèveront leur argent par des bingos, des jeux de loterie, des paris, tout ce qui peut rapporter. Ils enseigneront n'importe quoi, laissant passer n'importe quoi, tapant dans le dos des hommes qui sont de gros payeurs dans l'église, et ainsi de suite comme cela, c'est exact. Placer des diacres dans le conseil qui ont été mariés 4 ou 5 fois, juste afin de se procurer avec cela, afin de rejoindre les deux bouts. Il n'y a qu'un bout que vous ayez à rejoindre, c'est votre obligation envers Dieu. Tenez-vous debout et dites la vérité. Perdu, un homme qui est perdu est désorienté, il est un fou. Le guide a compris, il sait comment y aller, comment le faire. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Dieu n'a jamais failli. Il envoie un guide, mais vous devez accepter ce guide, voyez. Vous devez croire en lui, vous devez aller du côté qu'il dit. Si vous arrivez dans un désert et que votre guide dise, nous allons de ce côté, et par contre vous pensez aller de cet autre côté, vous allez vous perdre. Ensuite, Dieu nous envoie un guide pour nous guider. Nous devons suivre ce guide. Peu importe ce que nous pensons, ce qui a l'air raisonnable et ce qui a l'air ridicule, nous ne sommes pas assujettis de diviser cela. Le guide en est le seul. Dieu, dans l'Ancien Testament, a envoyé des prophètes. Ils étaient des guides, parce que la parole du Seigneur est venue aux prophètes. Ils étaient des guides. Ils enseignaient le peuple, comme nous l'avons vu hier soir avec Ésaïe et Osias. Ils étaient instruits, ils donnaient leurs instructions aux gens et ils les dirigeaient. Et maintenant, Dieu a toujours envoyé ses guides. Ils n'ont jamais été sans guide. Et cela à travers tous les âges. Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre dans tous les âges. Maintenant, parfois, ils délaissent le guide. Ils déraillent, comme on dit. Lorsque Jésus était ici sur la terre, ne vous souvenez-vous pas que Jésus a dit aux pharisiens, « Vous, guides aveugles, des guides aveugles aux choses spirituelles, voyez ?» Maintenant, ils devaient être des guides pour le peuple, guidant le peuple au salut. Mais Jésus a dit, « Vous êtes aveugles. » Et il a dit, « Laissez-les tranquilles, car si l'aveugle conduit les aveugles, ne tomberont-ils pas tous les deux dans le fossé ?» Des guides aveugles. Oh, combien le monde a été contaminé avec cela. Des guidages aveugles. Amen. Il ne veut pas que vous vous appuyiez sur votre propre compréhension. Dieu ne veut pas que vous vous appuyiez sur votre propre compréhension, votre pensée, ou sur des idées faites par les hommes. Amen. Dieu envoie un guide. Et Dieu veut que vous reteniez qu'il est désigné comme son guide. Et nous devons nous souvenir de lui. Ici, il est dit, Jésus a dit, « Je ne vous quitterai pas, mais je prierai le Père et il vous enverra un autre Consolateur. » Et ce Consolateur, lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et la parole est Christ. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et habita parmi nous. Alors si nous suivons le réel, véritable guide, le Saint-Esprit, il nous dira ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et il nous montrera les choses à venir. Amen. Voilà, il vous montrera les choses à venir. Et lorsque les églises aujourd'hui rejettent cela, comment pouvons-nous nous attendre à aller au ciel? Lorsque le Saint-Esprit nous a été envoyé pour être notre guide, nous voulons prendre un cardinal, un évêque, un surintendant général ou quelqu'un comme ça pour nous guider, alors que c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous guider. Et le Saint-Esprit parle toujours selon la parole. J'ai encore bien des choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant, mais lorsqu'il viendra, il vous guidera dans cela. C'est la raison de la venue des sceaux. À la fin du septième sceau, le mystère de Dieu doit être accompli, à savoir qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature et son être. Vous êtes supposés être tout en haut ici, en cette époque, voyez, nous introduire à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Une église qui est lavée par le sang de Christ. Elle n'est pas rachetée avec de l'argent, mais elle est rachetée avec le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous voici un guide, et il est le guide pourvu par Dieu. Maintenant, nous traversons un désert, nous sommes en route quelque part, et on ne peut pas se passer de ce guide, et que personne n'ose essayer de substituer un autre guide. Si vous le faites, il va vous faire sortir de la ligne. Ce guide connaît le chemin, il connaît chaque pouce du chemin, il connaît chaque pensée qui est dans votre cœur, il connaît tous ceux qui sont ici, il sait qui vous êtes, et ce que vous avez fait, et tout ce qui vous concerne. Il est le guide de Dieu, le Saint-Esprit, et il vous révélera des choses, et il vous dira les choses qu'il a entendues. Il peut répéter vos paroles à nouveau et dire ce que vous avez dit. Amen. Il peut vous dire ce que vous avez été, ce que vous avez fait et où vous allez. Un guide, le guide correct, et il vous conduira dans toute la vérité, et sa parole est la vérité. Maintenant, le Saint-Esprit ne fera jamais dire « Amen » à n'importe quelle sorte de credo fabriqué par les hommes. Il va seulement ponctuer la parole de Dieu avec « Amen », parce que c'est ainsi. Le Saint-Esprit ne vous guidera pas dans n'importe quel chemin. Maintenant, la chose étrange, c'est que nous tous, toutes nos grandes dénominations et ces choses ont réclamé qu'elles étaient toutes conduites par le Saint-Esprit. Et il y a autant de différence entre elles qu'il y a un jour et une nuit. Mais lorsque Paul, ce petit pharisien qui reçut le Saint-Esprit quand Ananias le baptisa, il alla en Arabie et étudia pendant 3 ans, il est revenu et il n'a jamais consulté l'Église à propos de rien pendant 14 ans. Et lorsqu'il vint et rencontra Pierre, le chef de l'Église de Jérusalem, ils observaient la même doctrine. Pourquoi? Le même Saint-Esprit. Où Pierre baptisait au nom de Jésus-Christ, Paul faisait la même chose sans que personne ne lui ait dit. Où Pierre enseignait le baptême du Saint-Esprit et la sanctification, et ainsi de suite, Paul faisait la même chose sans avoir consulté l'Église, parce que c'était le même guide. Alors comment est-ce possible aujourd'hui, lorsque les gens renient ces vérités? Lorsque Pierre enseignait ce qu'il faisait à propos de la manière que l'Église devait être mise en ordre, Paul avait la même doctrine, parce qu'ils avaient le même guide. Un guide ne va pas en prendre un sur ce chemin et un sur cet autre chemin et en envoyer un à l'est et un autre à l'ouest. Il compte vous garder ensemble. Et si nous pouvions seulement laisser le Saint-Esprit nous maintenir ensemble, nous serions un. Si nous ne laissions pas le diable nous entraîner sur le mauvais chemin, nous serions d'un cœur, d'une pensée, d'un accord, par un esprit, le Saint-Esprit, le guide de Dieu qui nous conduira dans toute la vérité. C'est exact. Mais vous devez suivre votre guide. Oui, monsieur. Regardez Nicodème. Il avait besoin d'un guide, bien qu'il soit un homme intelligent. Il était un enseignant âgé de 80 ans environ. Il était un pharisien ou un membre de la juridiction du Sanhédrin, du conseil ou de l'association des ministres. Il est un de leurs plus grands hommes, un enseignant en Israël, un maître dans cela. Pensez-y, un maître enseignant. Oui, il connaissait les lois, mais lorsque c'est venu à naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. Il avait faim de cela. Il savait qu'il devait y avoir quelque chose de différent. La manifestation de Christ, cette nuit-là, le prouva. Elle le prouva aussi au reste d'entre eux. Mais aucun d'eux n'eut la même, l'audace même qu'il avait. Aucun autre n'a pu venir là et faire ce qu'il a fait. Vous savez, les gens condamnent Nicodème parce qu'il est venu le soir. Il y est arrivé, il y est parvenu. Je connais des gens qui ne veulent même pas commencer le jour ou la nuit. Mais il y arriva et il avait besoin d'un guide. Et il a dit, « Maître, nous, de la cour du Sanhédrin, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu. » Pourquoi le savait-il? Il était confirmé, voyez. Il voulait savoir ce que voulait dire cette nouvelle naissance. Et il est allé directement à la bonne personne, parce que Dieu avait confirmé que celui-ci était son guide, Jésus. Regardez ce qu'il a dit. « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car aucun homme ne peut faire les choses que tu fais sans que Dieu soit avec lui. » C'était la preuve qu'il y avait un Dieu vivant au-dedans de lui. Qu'est-ce qu'il affirma? Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce que le Père lui montre, ainsi le Fils fait de même. Le Père œuvre et j'œuvre jusqu'ici. En d'autres mots, Dieu lui montrait quoi faire et il allait et accomplissait tout simplement cela. Il ne faisait rien tant que Dieu ne lui disait pas de le faire. Amen. C'est la vraie franche vérité de cela. Si nous pouvions seulement bouger et attendre que l'Esprit nous pousse à le faire, c'est ça. Et ensuite, être complètement abandonné en Christ, qu'il n'ait pas besoin de vous tirailler comme il le fait pour moi, mais au premier signe de sa tête, être prêt et ne laisser rien vous arrêter parce que vous savez que c'est la volonté de Dieu. Il avait besoin d'un guide et il était un guide confirmé. Il pouvait être conduit par ce guide parce qu'il savait que ce guide était inspiré de Dieu. Il savait que les traditions qu'il avait servies, peut-être auprès des pharisiens, des sadducéens et quoi d'autre, il avait servi ses credos tout au long et il n'avait rien vu se produire. Mais voici que vient un homme sur la scène, disant qu'il est le Messie promis de la Bible. Ensuite il revient et il fait les œuvres même de Dieu. Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si vous ne pouvez pas croire en moi, croyez les œuvres même que je fais, car elles témoignent de moi. Ensuite, pas surprenant que Nicodème puisse dire, « Maître, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire les choses que tu fais sans que Dieu soit avec lui. » Voyez, il avait besoin d'un guide, bien qu'il soit un maître dans la chose. Il était un maître dans son église, il avait de la dignité, et il avait des places importantes, il était un grand homme, sans doute respecté de tous les gens à travers le pays. Mais lorsque c'est venu à la nouvelle naissance, il avait besoin d'un guide. Et nous aussi, oui, nous avons besoin d'un guide. Corneille, il était un grand homme, un homme honorable. Il bâtissait des églises, il respectait les Juifs, parce qu'il savait que leur religion était vraie. Et il payait les aumônes et il priait à chaque jour. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, quelque chose avait été ajouté à l'église. Il avait besoin d'un guide. Dieu lui envoya le Saint-Esprit. Il l'envoya par la personne de Pierre. Mais, pendant même que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur lui. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Dieu a utilisé le guide à travers Pierre. Il l'a utilisé parce qu'il a guidé Corneille au véritable chemin. Et pendant même qu'il parlait, le Saint-Esprit est tombé sur les gentils. Ensuite, il a dit, pouvons-nous leur refuser les eaux du baptême? Voyez, c'est encore le guide qui parle, ce n'est pas Pierre, parce que c'était un groupe de juifs ou de gentils, des impurs, vils pour Pierre. Il ne voulait même pas y aller, mais le guide a dit, je t'envoie. Vous faites des choses que vous ne penseriez pas faire. Lorsque le guide vous contrôle complètement, lorsque vous le laissez vous guider, oh, comme c'est merveilleux d'être conduit par le Saint-Esprit. Il est le guide. Très bien. Il a parlé à travers Pierre et lui a dit quoi faire. Ensuite, lorsqu'ils ont tous reçu le Saint-Esprit, il a dit, nous ne pouvons pas leur refuser les eaux, voyant que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement. Et ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, qui l'a conduit à faire cela? le guide qui était en lui. Jésus ne leur a-t-il pas dit, ne préméditez pas ce que vous allez dire, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Père qui demeurera en vous, c'est lui qui parlera. Amen. L'eunuque descendant de Jérusalem, et Dieu avait un guide dans le monde à ce moment-là, le Saint-Esprit. Et il avait un homme là-bas qui était rempli de ce guide. Il n'était même pas un prédicateur, il était un genre de diacre. Et il était là-bas guérissant les malades, chassant les démons et causant une grande agitation. Une grande joie était dans la cité. Il avait des centaines de gens réunis autour de lui. Et le guide dit, c'est assez, reviens de ce côté. Il ne s'est pas disputé avec son guide. Ne discutez jamais la parole de votre guide. Suivez-le. Amen. Si vous ne le faites pas, vous serez perdus. Et rappelez-vous, lorsque vous le quittez, vous êtes livré à vous-même. Ainsi, nous voulons rester proches du guide. Sur la route, il a dit, laisse ce groupe maintenant, Philippe, et va dans le désert où il n'y a personne. C'est moi qui t'envoie là. Et il y aura quelqu'un lorsque je te ferai arriver là. Voici que vient un eunuque solitaire. Il était un grand homme pour la reine là-bas en Éthiopie. Alors il descendait, lisant le livre d'Ésaïe. Et le guide a dit, va près du chariot. Et il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, comment puis-je comprendre alors qu'il n'y a pas d'homme pour me guider? Oh my. Mais Philippe avait le guide. Amen. Et de cette écriture, il commença et il lui a prêché Christ. Amen. Le guide. Pas lui raconter un certain credo. Il lui a parlé du guide, Christ. Et il l'a baptisé là-bas dans l'eau. Certainement c'était ainsi. Oh, comme j'aime cela. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte pour la terre promise, dans Exode 13, 21, Dieu savait qu'il n'avait jamais voyagé par là auparavant. C'était à 40 000 seulement, mais quand même ils avaient besoin de quelque chose pour aller avec eux. Ils auraient perdu leur chemin. Alors lui, Dieu, leur a envoyé un guide. Exode 13, 21, quelque chose comme ça. J'envoie mon ange devant vous, la colonne de feu pour vous garder dans le chemin. Pour les guider à cette terre promise. Et les enfants d'Israël ont suivi ce guide. La colonne de feu, la nuit, le nuage, le jour. Lorsqu'ils arrêtaient, ils arrêtaient. Lorsqu'ils se déplaçaient, ils se déplaçaient. Et lorsqu'ils approchèrent la terre promise, ils n'étaient pas prêts à y entrer. Il les a reconduits dans le désert à nouveau. Ils ne voulaient pas y aller avec eux. Voici ce que c'est l'Église aujourd'hui. Il n'y a pas de doute que la longanimité de Dieu aujourd'hui est comme dans le temps de Noé. L'Église serait partie si seulement elle se serait corrigée et placée en ordre. Mais il doit nous avertir, nous avertir, nous avertir. Peu en Israël le savaient lorsqu'ils ont crié en voyant les soldats d'Égypte morts, les chevaux noyés, les chariots du Pharaon virés à l'envers. Ils avaient eu la victoire. Moïse dans l'esprit, chantant dans l'esprit, Myriam dansant dans l'esprit, et les filles d'Israël courant de haut en bas de la rive, criant et dansant. Ils étaient juste à quelques jours du lait et du miel. Peu le savaient qu'ils en auraient pour 40 ans. Parce qu'ils ont commencé à murmurer contre Dieu et le guide. Et nous constatons que nous faisons la même chose. Je m'en vais à Shreveport après ici. Le Saint-Esprit est tombé là le jour de l'action de grâce, il y a 50 ans, en Louisiane, le jour de l'action de grâce. Comme l'Église s'est effondrée depuis ce temps. Réalisez-vous que l'Église catholique romaine, à son début, était l'Église pentecôtiste? C'est la vérité, c'est exact. C'était une église pentecôtiste, mais les dignitaires en pesée ont commencé à y entrer et changer les écritures de Dieu pour leur tradition, ajoutant à cela des dogmes et ainsi de suite. Et regardez ce qu'ils ont maintenant. Pas un grain d'écriture dans tout cela. Ils ont substitué quelque chose pour quelque chose d'autre. Un morceau de pain pour le Saint-Esprit. Ils ont substitué l'aspersion pour l'immersion. Ils ont substitué Père, Fils et Saint-Esprit pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont substitué tous ces grands oracles de Dieu qui nous avaient été donnés. Et ils se sont éloignés, détournés du bon sens de la doctrine scripturaire. La Pentecôte est tombée en Louisiane il y a 50 ans.
Et si elle tient le coup un autre 200 ans, elle sera plus éloignée que l'Église catholique l'est, si elle continue de chuter comme elle l'a fait ces 50 dernières années. Parce qu'ils en ont ajouté à cela tout le temps, constamment. Les bons prédicateurs à l'ancienne mode sont partis. Les réunions dans la rue, vous n'entendez plus parler. Tout ce que nous avons, c'est un paquet de Hollywood, ajouté à cela. Les femmes aux cheveux coupés, portant des shorts, maquillées et tout s'appelant chrétiennes. Un petit Ricky avec une guitare courant de long en large dans l'endroit et les femmes avec une robe si serrée comme, juste comme la peau d'un saucisson, la peau à l'extérieur quasiment, se secouant là-haut sur la plateforme, courant de haut en bas sur la plateforme, dansant avec des boucles d'oreilles pendantes et une de ces nouvelles coupes de cheveux comme la dame du pays, ensuite appelée cela du christianisme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une bonne religion à l'ancienne mode envoyée de Dieu. Amen. Et une religion bouillante qui va faire bouillir la mondanité hors de l'Église. Amen. Nous avons besoin de revenir au Saint-Esprit et au feu, de retour à ce qu'il brûle l'impureté, ramener la prédication à l'ancienne mode, rendre le ciel haut et l'enfer chaud, droit comme un canon de fusil. Nous avons besoin de cette sorte de prédication. Mais faites-le aujourd'hui. Votre congrégation va voter pour votre renvoi. Parfois, de bons prédicateurs sont conduits hors du bon chemin par leur congrégation. C'est la raison pourquoi je n'ai pas de dénomination. J'ai un quartier général, c'est le ciel. Où qu'il m'envoie, j'y vais. Quoi qu'il dise, je le dis. Nous ne voulons pas de dénomination. Si jamais cette Église vient à parler de dénomination, c'est alors que vous perdrez votre pasteur. Je ne me tiendrai pas autour de ça, pas cinq minutes. Chaque église qui est devenue une dénomination est allée à la semence, et nommez-moi en une qui ne l'a pas faite, et nommez-moi en une qui s'est relevée à nouveau. Le Saint-Esprit est envoyé pour guider l'église. Pas un groupe d'hommes. Le Saint-Esprit est toute la sagesse. Les hommes deviennent empesés et indifférents. Dieu leur a dit qu'il leur enverra un guide, qu'il les conduirait dans le chemin. Et aussi longtemps qu'ils suivraient cette colonne de feu, ils seraient corrects. Il les a conduits jusqu'à la frontière de la terre promise. Et ensuite, c'est le plus loin qu'ils pouvaient aller. Ensuite, Josué, ce grand guerrier, vous souvenez-vous du jour qu'il leur a dit, sanctifiez-vous, le troisième jour, Dieu va ouvrir le Jourdain en bas ici, et nous allons traverser. Maintenant, surveillez ce qu'il a dit. J'aime ceci dans l'Écriture, il a dit, restez proche de l'arche, car vous n'êtes pas passé par ce chemin auparavant. Qu'était l'arche? La parole. N'allez pas sur vos routes dénominationnelles maintenant, restez droit derrière la parole, car vous n'êtes pas passé par ici auparavant. Et frères, si jamais il y a eu un temps où l'Église chrétienne devrait s'examiner, c'est dès maintenant. En ce moment même, nous avons cette grande réunion qui se passe à Rome. Des différences ont été abolies. La confédération des églises, lorsque toutes ces dénominations seront confédérées ensemble, afin de former l'image de la bête, exactement comme la Bible dit. Et vous savez ce que nous avons dit ce matin dans les messages. Et voilà où nous en sommes, à côté de ces choses, et les gens suivent encore ces credos. Vous feriez mieux de rester derrière la parole. La parole vous conduira au travers, parce que la parole est Christ. Christ est Dieu, et Dieu est le Saint-Esprit. Restez derrière la parole. Oh oui, monsieur, restez avec ce guide. Restez juste derrière lui. N'allez pas devant lui, restez derrière lui. Laissez-le vous conduire. Ne le conduisez pas, laissez-le aller. Jésus a dit, maintenant vous n'êtes jamais passé ici auparavant. Vous ne connaissez rien de cette route. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un guide pour vous conduire sur la grande route. Oh, vous connaissez toutes les allées et toute autre chose. Vous connaissez tous les chemins pour pêcher. Il n'y a pas, oh, vous êtes dans les environs depuis longtemps. Il n'est pas question d'avoir quelqu'un essayant de vous expliquer cela. Vous connaissez tous les raccourcis. C'est vrai, chaque péché, vous connaissez tout à propos de cela. Personne n'a besoin de vous dire comment voler, vous savez comment le faire. Personne n'a besoin de vous dire comment blasphémer, vous avez de l'expérience. Personne n'a besoin de vous dire comment faire ces choses viles, parce que c'est indiqué partout, sur chaque arbre. Mais souvenez-vous, vous qui êtes chrétien, vous l'avez traversé, vous êtes dans un autre pays, vous êtes né de nouveau, vous êtes dans le pays, une terre céleste, vous êtes dans la terre promise. Vous pouvez partir, vous connaissez votre chemin dans les alentours ici. Oh my, oui, vous savez comment tenir une certaine main de cartes, vous savez comment rouler les dés quand ça roule, ce que cela veut dire, et tout comme ça. Mais quand il est question de connaître la sainteté et la justice et la puissance de Dieu, comment le Saint-Esprit opère et ce qu'il fait, vous feriez mieux de rester juste derrière la parole, le guide. Voyez, vous n'êtes jamais passé par ici auparavant. Eh bien, vous dites, j'étais un homme assez intelligent. J'avais 2 ans d'université. Vous feriez mieux de l'oublier, oui, monsieur. J'ai passé par le séminaire. Vous feriez mieux d'oublier ça, oui. Vous devriez rester derrière le guide et le laisser vous guider. Il connaît le chemin, pas vous. Vous n'êtes pas passé par ici auparavant. Eh bien, vous dites, eux sont passés. Voyez s'ils sont passés. Jésus a dit, ceux qui sont passés par ce chemin, ces signes les accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ou prendront des serpents, ou boiront des choses mortelles, et cela ne leur fera aucun mal. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. La plupart refusent cela. Ils renient cela, disant que cela n'est même pas inspiré. Ils ne suivent pas le guide. Ils suivent un credo fait de main d'homme. Vous feriez mieux de rester juste derrière la parole, parce que vous n'êtes pas passé par ici, vous savez. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la sainteté. Vous n'avez pas passé par ce chemin auparavant. Vous n'êtes pas... Si vous passez par ce chemin, vous devez passer par la sainteté, parce que c'est une nouvelle terre, une nouvelle vie, un nouveau peuple. Vous êtes venu à l'église et vous avez entendu quelqu'un se lever et crier « Gloire à Dieu ! Alléluia !» Eh bien, vous avez dit « Bonté, ils n'ont jamais fait ça à mon église. Je vais me lever et sortir. » Voyez, soyez prudents. Restez derrière la parole maintenant. Laissez le guide vous conduire. Il vous conduira dans toute la vérité et vous révélera ces choses dont je vous ai parlé. Il vous montrera cela. Il vous montrera des choses à venir. Le véritable guide. N'allez pas à l'évêque, allez vers le guide. N'allez vers personne d'autre que ce guide. C'est lui qui a été envoyé pour vous guider. C'est lui qui va le faire. Dieu vous a fourni un guide. Prenez le chemin pourvu par Dieu. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens qui viennent à l'église ne s'assoient que quelques minutes, quelque chose se passe auquel ils ne sont pas habitués. J'ai admiré une petite femme d'une église formaliste et froide. Je viens juste de prier pour elle. Dieu va la guérir. Elle ne comprenait pas ceci. Elle ne connaissait rien à propos de cela. Elle est entrée, elle dit qu'elle ne connaissait rien de cela. Mais je lui ai dit, venez me voir. Elle était un peu timide et par le fait un peu lente. Mais le guide lui disait toujours, va de l'avant. Elle a saisi cela, voyez. C'est parce que le Saint-Esprit qui nous guide vers ces choses, voyez, Dieu a pourvu un chemin. Avez-vous déjà vu passer les oies sauvages lorsque les canards s'en vont au sud? Eh bien, observez maintenant ce pauvre petit canard qui est né là-haut, sur un étang quelque part. Il ne connaît pas l'est, le nord, l'ouest ou le sud. Il ne connaît rien d'autre que cet étang situé là-haut dans les montagnes au Canada. Il n'est jamais sorti de cet étang. Mais il est né pour être un conducteur. Ce petit canard est né pour être un conducteur. Et tout d'abord, un soir, il y aura une grosse tempête de neige qui traversa le dessus des montagnes. Qu'arrive-t-il? Cette brise froide descend au travers là. Je peux imaginer qu'il grelotte disant, « Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ceci veut dire? » Voyez, il n'avait jamais senti cet air froid auparavant. Il commence à observer les alentours. Il regarde le bord de l'étang, l'étang commence à geler, la glace se forme sur l'étang. Il ne comprend pas, mais tout à coup, il est né pour être le guide de ce troupeau de canards. Il sautera tout droit dans le milieu de cet étang quand cela le saisira. Appelez cela comme vous le voulez. Nous appelons cela l'inspiration. Vous pouvez l'appeler l'instinct ou quoi que ce soit. Il va s'en aller juste au milieu de cet étang, lever son petit bec en l'air, va crier... Coin, 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 coin. Chaque canard sur cet étang va venir directement à lui. Pourquoi? Ils connaissent leur conducteur. Juste par la manière qu'ils crient. si la trompette donne un son incertain, qui se préparera pour la bataille? Vrai! Qui se préparera pour la bataille si la trompette donne un son incertain? Eh bien, si ce petit canard donne un cri incertain, qui va se préparer pour s'envoler? Ce pauvre petit canard va mettre son petit bec en l'air. Coin, 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 coin. Chaque petit canard va venir vers lui. Coin, 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 coin. Les voilà. Ils vont avoir un de ces jubilés juste là au milieu de cet étang, tournant en rond encore et encore. Après quelque temps, il sent cela agir sur lui. Il doit partir. Il va hausser ses petites ailes et il va s'envoler hors de cet étang. Il montera dans les airs. Il va tourner 4 ou 5 fois. Il ira tout droit à la Louisiane aussi vite qu'il pourra y aller avec tous les canards derrière lui. Coin, 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 coin. Le voici qui vient. Pourquoi? Il est un guide. Amen. Les canards connaissent leur guide. L'Église ne le connaît pas. Oui, il sait quoi faire. Regardez à ces vieilles oies, d'aussi loin que l'Alaska. Maintenant, il y a toujours un vieux jar qui les conduit, et ces oies doivent analyser ce jar bien correctement. Ils doivent savoir de quoi parle ce jar. Avez-vous lu cela dans le magazine Look, ici, il y a environ 4 ans, où un vieux jar, une fois, ne savait pas ce qu'il faisait, et il a conduit un troupeau d'oies tout le long jusqu'en Angleterre? C'est exact. On n'a jamais été informé qu'il y en avait en Angleterre auparavant. Pourquoi? Ils n'ont jamais pris garde à leur conducteur. Ce vieux jar ne savait pas où il allait. Et maintenant, ils sont là-bas, ils ne peuvent pas revenir. C'est ce qui se passe avec plusieurs de ces oies aujourd'hui. Elles sont encore éparpillées. Ils disent, magazine Look a dit, ces oies se rassemblent et volent alentour de l'Angleterre. Elles ne savent pas comment revenir. C'est comme ça avec certaines de ces oies que je connais. Vous avez un rassemblement, une grande réunion qui se prolonge, et vous avez un évangéliste qui vient prêcher pendant un moment, mais vous ne savez pas où vous allez, tournant en rond et en rond, parce que vous avez un jar pour vous conduire dans une tournée dénominationnelle. Ils ne reviennent pas à la parole de Dieu et au baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de réveil dans nos jours. Voyez, vous devez avoir un son infaillible. Ce son est la trompette de l'Évangile qui respire l'Évangile, chaque parole de Dieu. Pas un credo ou une dénomination, mais la Bible, le Saint-Esprit. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Voyez? Et là, ils descendent dans la rue. Un vieux jar, une fois, disent-ils, en a fait tuer un groupe, essayant de les faire voler pendant la noirceur, ne sachant pas où il allait lui-même, elles se sont toutes heurtées contre les montagnes là-bas. Quelques-uns se sont désintégrés. Ils ont éclaté, certainement. Ils doivent reconnaître ce son infaillible. Ce pauvre petit canard, s'il a ce son infaillible, ils en sont informés et ils ont un petit rassemblement, le jubilé, et ils s'envolent vers le sud. Pourquoi vont-ils là, où il ne fait pas froid? Maintenant, si Dieu a donné un canard assez de bon sens pour savoir comment éviter le froid, combien plus le fera-t-il pour son Église? Si un canard peut faire ça par instinct, qu'en est-il du Saint-Esprit dans l'Église? Cela devrait nous éloigner de ces vieilles formalités, des credos et ces choses, dans un glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit, où il y a la vertu, la connaissance, la patience, la sainteté et le Saint-Esprit. C'est cela ce que le vrai guide commandera, parce qu'il ne respirera rien d'autre que l'Évangile, juste la parole de Dieu. Certainement, vous avez besoin d'un guide. Lorsque les rois mages, ils ne connaissaient rien à propos de Dieu. Ils étaient des faiseurs de magie, des magiciens. Ils étaient de l'Orient. Vous savez, la Bible dit, nous avons vu son étoile dans l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Ils venaient de l'Ouest, ils cherchaient à l'Est, ils ont vu son étoile. Ou on regarde à l'Ouest, ils étaient à l'Est, nous étions dans l'Est, et nous avons vu son étoile dans l'Ouest, voyez. Nous avons vu son étoile dans l'Est, voyez, ils étaient dans l'Est. Lorsque nous étions dans l'Est, nous avons vu l'étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Je peux imaginer voir ces gars se préparer à partir. Je peux imaginer une de leurs épouses lui dire, « Dis donc, tout est empaqueté, mais où est ton compas ?» Ils disent, je ne sais pas même me servir du compas cette fois-ci. Eh bien, comment allez-vous traverser les montagnes? Rappelez-vous qu'il devait traverser le Tigre et descendre à travers les plaines. Eh bien, ils avaient un parcours de 2 ans en chameau. Comment vont-ils faire cela? Elle a dit, eh bien, vous ne prenez même pas une boussole? Il dit, non, comment y allez-vous? Je m'en vais par le moyen pourvu par Dieu. Cette étoile là-haut va me conduire à ce roi. C'est ça. Nous avons vu son étoile dans l'est et nous l'avons suivi jusqu'ici dans l'ouest pour l'adorer. Où est-il? Ils ont suivi le moyen pourvu par Dieu. Ils ont été liés avec un paquet de credos pendant un moment. Ils arrivèrent à Jérusalem. Ils commencèrent à monter, à descendre la rue. Ces gens habillés finement disant, où est-il? Où est-il né le roi des Juifs? Eh bien, c'était la tête, c'était Jérusalem. La grosse église devait certainement savoir quelque chose à propos de cela. Où est-il? Où est-il né le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile dans l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? Eh bien, ils sont allés vers le pasteur tel et tel, et au grand prêtre tel et tel. Aucun d'eux ne savait rien à propos de cela. Eh bien, il y en a un qui est né le roi des Juifs. Où est-il? Ils ne le savaient pas. Mais il y a eu un groupe de bergers là-bas sur la colline qui a eu du bon temps. Oui, monsieur, parce qu'ils étaient venus par le moyen pourvu par Dieu. Alors ils s'arrêtèrent là et catégoriquement il dit, je vais vous dire ce que nous devrions faire. Nous devrions réunir le conseil. Alors ils ont réuni le conseil du Sanhédrin et ils ont réfléchi à ce qu'ils avaient entendu à propos de cela. Non, nous ne savions rien concernant cela. C'est la même chose aujourd'hui. Ils ne connaissent rien de ce guide, ce Saint-Esprit qui guérit, remplit, sauve et qui revient à nouveau. Le guide qui nous a dit que toutes ces choses arriveraient. Nous voici juste au milieu de cela. Ils discernent les pensées du cœur. Ils ne savent rien à propos de ça. Ils appellent cela de la télépathie mentale ou autre chose. Ils ne savent pas quoi en dire. Alors vous voyez ces rois mages aussi longtemps. Rappelez-vous, lorsqu'ils entrèrent à Jérusalem, l'étoile a disparu. Et aussi longtemps que vous rechercherez des credos et des hommes dénominationnels pour vous conduire à Dieu, l'aide de Dieu vous quittera. Mais lorsqu'ils furent fatigués et malades de cela, et qu'ils eurent laissé cela, qu'ils eurent quitté les credos et les dénominations de ces Juifs, et qu'ils soient sortis de Jérusalem, alors l'étoile est apparue à nouveau. Ils débordaient de joie. De nouveau, ils voyaient le guide. Oh! Comme c'est, appartenir à une vieille église froide et formaliste, et après un certain temps, revenez vers un bon feu, voyant le guide vous conduire. Quelle différence ça fait? Oui, nous avons vu son étoile dans l'est, et nous sommes venus pour l'adorer. Josué leur a dit, maintenant suivez l'arche, car vous n'êtes jamais passé ici auparavant. Dieu ne permettra pas à cette arche d'aller ailleurs que droitement. Tous l'ont suivi, et il traversa le Jourdain directement. Ainsi en est-il aujourd'hui par le Saint-Esprit? Oui, monsieur. La seule manière que nous sachions si c'est le Saint-Esprit ou non, nous pouvons voir la manifestation confirmant la parole de Dieu. Maintenant, il n'y a pas longtemps, un groupe de frères avait de l'huile et du sang. Et c'est correct s'ils veulent faire ça de cette manière. Ce n'est pas une confirmation pour moi. C'est une confirmation biblique. Voyez, aussi longtemps que cela confirme ce que Dieu dit, c'est correct. Ils ont dit, c'est la confirmation que vous avez le Saint-Esprit lorsque vous avez de l'huile dans votre main. À présent, je ne peux pas soutenir cela. Voyez, non, je crois que l'huile n'a rien à voir avec cela. Et si c'est le sang qui va guérir et sauver, qu'est-ce qui est arrivé au sang de Jésus-Christ? Si c'est cette huile qui guérit, qu'en est-il de ces meurtrissures? Voyez, j'aime que le guide vienne et vous conduisent à la vérité de la parole. Alors vous savez que vous êtes à l'intérieur de la cible et que vous êtes prêt pour le compte à rebours. C'est exact. Vous êtes prêt pour l'enlèvement. Oui, monsieur. Oui, pourquoi? Le guide est celui qui rend cela réel. J'ai une écriture ici. J'avais renoncé à ces écritures, mais je veux lire celle-ci. C'est 2 Pierre, le premier chapitre, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Comment la prophétie est-elle venue? Pas par la volonté de l'homme, des credos dénominationnels, mais par la volonté de Dieu. Lorsque des hommes saints furent poussés par le Saint-Esprit, il a toujours été le guide de Dieu. C'était le Saint-Esprit qui était dans la colonne de feu. C'était le Saint-Esprit. N'importe quel homme sait que c'était Christ. Moïse a quitté l'Égypte, considérant l'opprobre de Christ une plus grande richesse que celle de l'Égypte. Christ était le seul. Eh bien, lorsqu'il se tinrent là et dirent, eh bien, tu dis que tu es lui. Pourquoi n'as-tu pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham? Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis était celui qui a rencontré Moïse dans la colonne de feu dans le buisson ardent. Oui, monsieur, il était Dieu fait chair, pas une troisième personne, la même personne dans un office différent. Pas trois dieux, trois offices d'un Dieu, c'est juste. Très bien, maintenant l'Écriture. Toujours lorsque Dieu pourvoit, il pourvoit le meilleur. Quand Dieu a pourvu un moyen pour fortifier son Église, il a pourvu au meilleur. Lorsqu'il a donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce qu'il leur a donné, c'était sa parole. Restez derrière cette parole et vous serez sauvés. Mais si vous sortez hors de cela, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Dieu n'a jamais changé sa stratégie et Satan n'a pas changé la sienne. Comment est-il entré en Adam et Ève? Comment entre-t-il en eux aujourd'hui? Comment? En essayant de raisonner cela. Maintenant, c'est raisonnable que Dieu ne fera pas cela. Oh, Dieu a dit, Satan a dit, mais sûrement un Dieu saint ne fera pas ça. Sûrement qu'il le fera, car il a dit qu'il le ferait. Et c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Oh, maintenant, attendez, vous ne croyez pas maintenant que si je vais à l'église, que je paye mes dîmes et fasse ceci, cela, Dieu puisse me chasser. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne comprendra même pas le royaume de Dieu. Voyez? Pas d'excuse. Eh bien, le pauvre vieux, la pauvre vieille, c'est une bonne vieille âme. La seule manière de vraiment voir Dieu, c'est de naître de nouveau. C'est tout. Peu importe comment petit, comment vieux, comment jeune, ce qu'ils ont fait, combien de fois ils sont allés à l'église, combien de dénominations ils connaissent, combien de credos ils peuvent réciter, vous devez naître de nouveau. Où vous n'êtes même pas sur la fondation pour commencer. C'est exactement vrai. Alors, vous voyez, vous avez besoin du guide. Il vous guidera à la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Il vous guidera. Et cela a toujours été ainsi. Dieu n'a jamais besoin de changer rien, car il est infini et il sait ce qu'il y a de mieux. Il est omniprésent, il est omniscient. Il est tout. C'est juste, Dieu l'est. Alors il n'a pas besoin de changer. Très bien. Dieu est un conformateur de la manière dont il conduit. Le Saint-Esprit le guide et le conformateur de la même parole qu'il enseigne. Maintenant, Luc était conduit par le guide pour dire, allez dans tout le monde, prêchez l'évangile à chaque créature, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, parleront avec de nouvelles langues, prendront des serpents, boiront des choses mortelles, imposeront les mains malades et ils seront guéris. Et la Bible dit, ils sont partis en tout lieu, conduits par le guide, vous savez, prêchant la parole avec des signes qui les accompagnaient. Qu'était le guide confirmant que c'était la vérité. C'était la ligne de conduite de Dieu. C'est de cette manière que cela a pu démontrer. C'était son programme. Il ne peut varier de cela, car il est infini. Amen. Il ne peut pas changer cela. Il est Dieu. Je peux changer. Je suis un homme. Vous pouvez changer. Vous êtes un homme ou une femme. Mais Dieu ne peut pas changer. Je suis limité. Je peux faire des erreurs et dire des choses fausses. Nous pouvons tous faire cela. Mais Dieu ne le peut pas être Dieu. Sa première décision est parfaite. La manière dont Dieu agit sur la scène, c'est de cette manière dont il doit agir chaque fois. S'il est appelé sur la scène pour sauver un pécheur, qu'il le sauve sur la base d'une seule chose, la prochaine fois qu'un pécheur viendra, il devra agir de la même manière. Ou il a mal agi lorsqu'il a agi la première fois. Amen. Je l'aime. Je sais que c'est la vérité. J'ai 53 ans. Je prêche l'évangile ici depuis 33 ans et demi. Je ne l'ai jamais vu échouer. J'ai vu cela éprouvé 7 fois autour du monde, dans toutes sortes de religions et toutes sortes de choses, devant près d'un 500 000 en une fois. Et jamais cela n'a failli. Je ne parle pas d'un certain livre, je parle d'expérience personnelle, que je sais que Dieu se tient derrière sa parole et l'honore. Maintenant, si vous avez quelques credos, vous êtes mieux de surveiller cela. Mais le Saint-Esprit va appuyer sa parole. Dans l'évangile de Saint Jean, le premier chapitre et le premier verset, il dit « Il est la parole, il est le guide. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et habita parmi nous. » Pierre fut conduit à dire dans les Actes 2:38 « Comment recevoir le Saint-Esprit ? » Il dit « Repentez-vous, chacun de vous, ensuite soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. Et ensuite, le guide va vous diriger à partir de là. » Oui, c'est la chose à faire. Premièrement, repentez-vous de vos péchés, votre incrédulité de ne pas avoir cru ces choses. Repentez-vous. Et ensuite, soyez baptisés. Et ensuite, le guide vous conduira à partir de là. Voyez, c'est votre devoir. C'est votre devoir de vous repentir. C'est votre devoir d'être baptisé. Ensuite, c'est le devoir du guide de vous conduire à partir de là, vous conduisant de la vertu à la connaissance, à la tempérance, à la patience, à la sainteté et à l'amour fraternel. Et le Saint-Esprit vous scelle. Voyez, alors vous êtes une pleine stature de Dieu, un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, ancrée en Christ. J'aime cela. Ancré en Christ. Oui, Marc était conduit par le Saint-Esprit pour écrire Marc 16, bien sûr. Jean était conduit lorsqu'il a écrit l'Apocalypse. Il était conduit par le guide. Il était conduit par le guide pour dire « Quiconque retranchera une parole de cela ou ajoutera une parole à cela, eh bien, sa part sera retranchée hors du livre de vie. » Maintenant, comment allez-vous substituer quelque chose pour la parole de Dieu? Continuez à dire que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Non, monsieur, pas du tout. Il a été mon guide à travers la vie. Il m'a guidé dans la vie. C'est lui qui m'a conduit à la vie. Et il est ma vie. Sans lui, je n'ai pas de vie. Sans lui, je ne veux rien d'autre. Il est mon tout en tout. Dans les heures de ma détresse, il se tient près de moi. Hier, il m'a béni, aujourd'hui, il fait de même. À quoi dois-je m'attendre? Le même pour toujours, loué soit son nom. Amen. Oui, monsieur, il l'a promis, il va le faire. Il est ma vie, il est mon guide, le tout en tout. Je lui ai fait confiance, j'ai eu de dures épreuves. Je lui fais confiance partout où je vais. Je veux que vous lui fassiez confiance. Si vous allez à la lessive, vous les femmes, faites-lui confiance. Si vous allez en ville, faites-lui confiance. Il fut un temps où je pensais que j'étais un bon chasseur. Vous savez, ayant tellement chassé, je pensais, je suis à toute épreuve. Personne ne va. Vous ne pouviez pas m'écarter. Ma mère était semi-indienne et j'aimais cela. Oh, Marie, vous ne pouviez pas me faire me perdre dans les bois. Je sais où je suis. Et en dehors ma lune de miel, j'ai joué un petit tour à ma femme. Je lui ai dit, tu sais chérie, ce serait une bonne chose si on se mariait le 23 octobre. C'est au cours de cette période que le Seigneur m'a dit de le faire. Et j'ai pensé, à présent, pour une petite lune de miel, je vais économiser mon argent, je vais l'emmener aux chutes Niagara, et j'irai dans les Adirondacks pour faire un peu de chasse, voyez. Alors je les ai emmenés, elle et Billy. Il était juste un petit bonhomme. Et alors je devais l'emmener en voyage de noces. Et c'était un voyage de chasse aussi, vous savez. Alors j'ai pensé que ce serait une bonne chose à faire. Alors je les ai emmenés là-bas et j'ai écrit à M. Denton, le garde forestier. Nous allions monter au mont Hurricane et j'ai dit, Monsieur Denton, je vais monter, je veux chasser l'ours avec vous cet automne. Et il a dit, d'accord Billy, montez. Alors il dit, je serai là à telle et telle date. Eh bien, ma femme et moi sommes arrivés une journée plus tôt et Billy, Et donc, la cabane était fermée et à clé, et il y avait une petite inclinaison derrière, là, dans les bois, où frère Fred Soffman et moi sommes allés il n'y a pas longtemps, et nous nous sommes tenus là. Le Saint-Esprit, je l'ai vu se tenir là, cette lumière jaune se promenant autour du buisson. Et Fred, se tenant juste là, il a dit, « Viens à côté, je veux te parler. » Demain, dit-il, sois prudent, ils t'ont tendu un piège. Il dit, sois alerte. Est-ce vrai, frère Fred? Et je suis allé, j'ai dit à des centaines de gens ce soir-là, là-bas au Vermont, j'ai dit, il y a un piège tendu pour moi, je vais le voir, je ne sais pas où c'est. Et le soir suivant, c'est arrivé, c'était là. Il dit, voici le piège qui est tendu. Oui, monsieur. Mais le Saint-Esprit m'a conduit dans quoi faire. Et oh my! C'est juste correct. Oh, plusieurs d'entre vous savez ce que c'est. Je n'ai pas le temps de le raconter. En me tenant là, à cet endroit, il commençait à faire froid ce jour-là. Monsieur Denton devait monter la journée suivante. J'ai dit, tu sais, chérie, cela serait bon si je prenais un gros chevreuil pour l'amener à la maison. J'ai dit, je devais économiser quelques sous. Nous venions de nous marier. J'ai dit, nous aurions notre viande pour l'hiver si je pouvais chasser un peu aujourd'hui. Elle a dit, eh bien, vas-y, Billy. Elle dit, « Maintenant, souviens-toi que je ne suis jamais allé dans ces bois. » Elle dit qu'elle était environ à 25 000 là-haut dans les montagnes, vous savez. Elle dit, « Je ne connais rien à propos de ceci. » Elle dit, « Alors j'ai... » Et j'ai dit, « Eh bien, à présent, souviens-toi, il y a 2 ans, j'ai tué ces 3 ours, c'était là, juste derrière, au-dessus de la montagne, là. » Et j'ai dit, « Maintenant, je vais attraper un gros chevreuil et nous prendrons un ours. » Et j'ai dit, « Nous aurons notre viande pour l'hiver, à l'intérieur. » Bien, ça sonnait bien, vous savez. Nous avions ramassé des mûres et nous avions notre charbon pour l'hiver. Et ensuite, Billy les avait vendus et Meda et moi les avons recueillis une soirée après que j'ai fini ma patrouille. Et alors, j'ai dit, eh bien, je vais ramasser mon fusil, je vais descendre en bas ici. J'ai dit, il y a beaucoup de chevreuils ici, je vais en trouver un. J'ai dit, tu sais, j'ai dit, ensuite, je l'attraperai. Et j'ai dit, viens, je reviens dans un moment. Elle a dit, d'accord. Alors, lorsque j'ai commencé... Le plafond était un peu bas. Vous, les gens du New Hampshire et de la Nouvelle-Angleterre, vous savez ce que ça veut dire. Lorsque cette brume descend, ou n'importe où ailleurs dans les montagnes, vous ne savez pas où vous êtes. C'est tout. Vous ne pouvez même pas voir votre main devant vous. Ainsi donc, j'ai commencé à descendre à travers une petite tranchée en bas et je voulais monter sur la crête. Et j'ai remarqué une panthère, comme vous appelez cela ici, dans cette partie du pays. Dans l'ouest, nous appelons cela un cougar. Là-haut, ils appellent cela un lion de montagne. C'est toujours le même animal. C'est un puma. Vraiment, c'est ce que c'est. Le même chat, environ 9 pieds de long, pesant environ 150-200 livres. Il a traversé le chemin et j'ai saisi le fusil rapidement, mais pas assez vite pour tirer sur lui. Eh bien, je me suis glissé là-haut sur la colline, chassant ce cougar, étant attentif aux feuilles qu'il agitait, vous savez. Je pouvais l'entendre. Il avait 4 pattes. Je savais que ce n'était pas un animal à 2 pattes, mais 4 pattes. Et je savais que ce n'était pas un chevreuil, car un chevreuil saute. Et il se glissait très doucement. Le chat, vous savez, comme ça. Un ours roule ses pieds quand il marche. Alors je savais que cela devait être un cougar. Il était derrière une bûche, je ne le voyais pas. Et le temps de l'entrevoir, il était parti. Et j'étais attentif de la manière qu'il remuait les feuilles, vous savez, là-haut au sommet de la montagne. Et en bas comme ceci. Et je n'étais pas attentif à ce nuage qui s'approchait tout le temps, vous savez, la descente de la brume. J'ai glissé en bas, j'ai traversé une grande vallée, je suis descendu dans les grands chênes, suivant ce cougar. J'ai pensé, je vais l'attraper après quelque temps. Je voyais un endroit, et je courais dans un lieu élevé, je regardais partout comme ça, jetant un coup d'œil alentour pour voir si je le verrais. J'écoutais très attentivement, et je m'abaissais et glissais en bas de nouveau. On pouvait entendre la broussaille faire du bruit, loin devant lui, quand il se déplaçait. Voyez, il se braquait sur les arbres, alors donc je ne pouvais pas le suivre. Voyez, il devint rusé, il monta dans les arbres, il sautait d'arbre en arbre. Alors il savait que je ne pouvais pas le suivre là. Oh, j'ai pensé, oh, de toute façon. Et j'ai commencé à remonter le canyon, et j'ai flairé un ours, un vieil ours mâle. J'ai pensé, je vais l'attraper maintenant, alors c'est bon. J'ai reniflé à nouveau, j'ai continué un peu plus loin, et j'étais attentif à toutes sortes de signes. Je ne pouvais rien voir. Je suis retourné en bas, je suis redescendu de l'autre côté de la montagne, et ensuite, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un peu de brume. Et j'ai de nouveau reniflé, il était dans l'air quelque part.
Je dis, non, maintenant, qu'est-il arrivé? Le vent venait de ce côté-ci, j'ai senti l'ours venant d'en bas de l'autre côté, et j'ai fait le tour, et le vent vient de cette autre direction. Alors je dois retourner où j'ai senti l'ours la première fois, et commencer à partir de là. Et sur mon chemin de retour, j'ai regardé dans le canyon, j'ai vu les arbustes bouger, et comme je regardais, quelque chose de noir a bougé. J'ai pensé, le voilà! J'ai chargé une cartouche dans le fusil, très rapidement, je suis demeuré immobile, et quand il a... C'était un très gros chevreuil, un beau gros, j'ai pensé. C'est exactement ce que je voulais de toute façon. J'ai tué le chevreuil. J'ai pensé, eh bien, je n'avais pas remarqué que c'était un peu... Après l'avoir préparé, j'ai regardé, j'ai nettoyé mes mains, fixé mon couteau, je l'ai remis à ta place. J'ai pensé, loué soit Dieu, merci Seigneur Jésus, tu m'as donné ma viande pour l'hiver, gloire soit à Dieu. Et j'ai pris mon fusil, je pensais, je vais juste remonter le canyon ici maintenant. J'ai dit, regardez-moi ça, oh boy, une tempête s'en vient, je ferais mieux de sortir d'ici, de retourner vers Meda. J'ai dit, je dois me dépêcher. J'ai monté aussitôt le canyon, déboutonné mon gros manteau rouge, et je courais en montant le canyon comme ceci alentour. Et la première chose, vous savez, j'ai pensé, où donc ai-je tourné? Le vent était déjà tombé, les arbres se frappant ensemble. Je pensais, où donc ai-je tourné? Je savais que je m'en allais directement au mont Hurricane, mais je me suis arrêté et je suais, je pensais, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait une demi-heure ou trois quarts d'heure que je suis parti et je ne peux pas trouver l'endroit où j'ai viré, où j'ai tourné. J'ai regardé en haut, mon chevreuil était pendu là. J'étais exactement au même endroit. J'ai pensé, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je suis de nouveau reparti. Je pensais, je réussirai cette fois-ci. C'est parce que je n'ai pas fait attention. J'étais attentif à chaque petit mouvement en observant. Je continuais à chercher. Ces nuages s'en venaient. Je savais qu'une tempête de neige était en route. La brume était tombée. Et ensuite, j'ai commencé à remarquer. J'ai pensé, je vais aller un peu plus loin. J'allais de l'avant et encore. Et j'ai pensé, bien, ceci est étrange. Il me semble que j'ai déjà vu cet endroit auparavant. Et j'ai regardé, mon chevreuil était pendu là. Voyez. Savez-vous ce que je faisais? Les Indiens appellent cela la marche de la mort. Voyez. Vous marchez en faisant un cercle et vous tournez autour. Bien. J'ai pensé que j'étais un trop bon guide pour me perdre. Voyez. Vous n'aviez rien à me dire des bois, je connaissais mon chemin. Voyez. Et je suis reparti à nouveau, j'ai dit, je ne peux pas refaire cette erreur. Et je suis revenu à nouveau, j'ai remonté le canyon un peu, ensuite il avait commencé à venter, oh my, de la neige partout, quasiment vers la noirceur, le crépuscule. Et je savais que Meda mourait ce soir-là dans cette forêt, elle ne savait pas comment prendre soin d'elle-même. Billy avait à peu près 4 ans, 3 ans, juste un petit bonhomme. Je pensais, que feront-ils? Eh bien, je suis monté assez loin et j'ai frappé un champ de mousse. J'ai pensé, je suis dans une plaine quelque part et je ne peux rien voir. C'est tout embrumé. Je tourne en rond maintenant. Ordinairement, je me serais trouvé un endroit et j'aurais attendu. Si j'avais eu quelqu'un avec moi, j'aurais attendu que la tempête soit finie, un jour ou deux, et je serais ressorti. J'aurais coupé un morceau de chevreuil sur mon dos et je serais rentré, j'aurais mangé, oublié ça. Mais vous ne pouvez pas faire ça quand votre femme et votre bébé sont là-bas dans les bois, périssants, voyez? Alors j'ai commencé à penser, que puis-je faire? Alors je suis allé un peu plus loin et j'ai pensé, maintenant attends. Lorsque j'ai traversé cette première vallée, le vent était dans mon visage. Alors j'ai dû arriver par ici, je dois revenir par ce côté. Et j'ai erré en bas, au loin, dans les grands chênes. Mais je ne savais pas où j'étais. J'ai dit, oh! J'ai commencé à devenir nerveux et j'ai pensé, attends une minute Bill, tu n'es pas perdu, essayons de me faire du bluff, vous ne pouvez pas bluffer cela, non, non, cette conscience intérieure vous dit que vous avez tort. Oh vous, vous essayez de dire, oh je suis sauvé, je vais à l'église, inquiétez-vous pas, attendez que celui de mort vienne et vous saurez que c'est différent. Votre conscience vous le dit, quelque chose en dedans vous dit que vous avez tort, voyez? Vous savez que si vous mouriez, vous ne pourriez pas rencontrer un Dieu saint. Comme nous l'avons vu hier soir, même les saints anges doivent voiler leur visage pour se tenir devant lui. Comment allez-vous vous tenir en dehors du sang de Jésus-Christ pour vous voiler? J'ai pensé, oh j'y parviendrai. Je suis allé de l'avant et j'ai découvert que j'entendais toujours quelque chose.
Ensuite, je suis devenu nerveux. Et j'ai pensé, maintenant, si je fais cela, je vais m'effondrer. C'est ce qu'un homme fait d'habitude. Il s'effondre dans les bois. Ensuite, il prendra son fusil, se tirera lui-même ou tombera dans un fossé et se cassera une jambe et tendu là, il mourra. Alors j'ai pensé, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai commencé à marcher de l'avant et je continuais d'entendre quelque chose disant, je suis une aide dans les temps de la détresse. Et je continuais à marcher. J'ai pensé, maintenant, je commence à perdre un peu le nord à présent. Je peux entendre la voix me parler. J'allais toujours de l'avant et ça sifflait. Ouh, ouh, ouh. Vous savez, j'ai pensé, non, je ne suis pas perdu. Tu sais où tu es, garçon. Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas te perdre. Tu es un trop bon chasseur. Tu ne peux pas te perdre. Me vantant moi-même, vous savez, me faisant accroire des choses à moi-même. Vous ne pouvez pas bluffer cela. Loin en bas ici, il y a une petite roulette qui tourne disant, garçon, tu es perdu et tu le sais. Voyez, vous êtes perdu. Je continue à avancer. Oh, je ne suis pas perdu, je serai correct, je vais trouver mon chemin pour sortir. Les choses semblaient bizarres, les vents se levaient, la neige tombait en éclatant, de la petite neige comme des flocons de maïs, nous appelons cela du grésil. Je pensais à ma femme et à mon bébé. Je ne suis pas, j'ai pensé, oh, ben. J'ai entendu exactement la même chose de nouveau, disant, je suis une aide pendant les temps de la détresse. Et j'étais un ministre de l'Évangile alors, prêchant ici au tabernacle. Alors j'ai pensé, eh bien, que puis-je faire? J'ai arrêté, j'ai regardé partout, il y avait de la brume à présent. Ça y était, rien ne pouvait être fait alors. J'ai pensé, oh, que puis-je faire? J'ai pensé, monsieur, je ne suis pas digne de vivre. J'ai eu trop confiance en moi. Je pensais que j'étais un chasseur, mais je ne le suis pas. Et frère, je lui ai toujours fait confiance. En chassant, j'ai des records là-haut et un pêcheur, j'en suis un pauvre, mais je lui ai toujours fait confiance. Des tirs, je tire mal, mais il m'a fait battre des records mondiaux, vous voyez. Tirer des chevreuils à 700-800 mètres et j'ai tué 35 bêtes avec mon fusil là-bas sans manquer un coup avec ça. Lisez ça n'importe où, si vous pouvez, vous voyez. Pas moi, c'est lui. Je lui ai fait confiance. Et j'étais là, je pensais, que puis-je faire? Que puis-je faire? Je continuais, ça devenait plus proche, plus proche. Je suis ton aide pendant les temps de la détresse. L'aide toujours présent. J'ai pensé, est-ce Dieu qui me parle? J'ai enlevé mon chapeau. J'avais mon chapeau de patrouille, un mouchoir rouge enveloppé alentour. Je l'ai déposé, j'ai enlevé mon manteau. Il était humide. J'ai déposé mon manteau par terre, appuyé mon fusil contre le tronc d'un arbre. J'ai dit, Père Céleste, maintenant, je commence à être hors de moi-même. J'entends une voix qui me parle. Est-ce toi? J'ai dit, Seigneur, je vais te l'admettre que je ne suis pas un chasseur. Je ne suis pas, je ne peux pas retrouver mon chemin. Tu dois m'aider. Je ne suis pas digne de vivre en faisant les choses que j'ai faites. En venant ici, en pensant que j'en connaissais trop pour me perdre. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon épouse est une bonne épouse. Mon bébé, mon petit garçon... Sa mère est partie au-delà, mais elle essaye d'être une mère pour lui et je viens juste de la marier. Et la voici avec un enfant, là dans les bois. Ils mourront tous les deux ce soir. Ce vent, il va descendre à 10 sous zéro et ils ne sauront pas comment faire pour vivre. Ils mourront ce soir. Ne les laisse pas mourir, Dieu. Emmène-moi vers eux afin que je puisse voir à ce qu'ils ne meurent pas. Je suis perdu, Dieu. Je ne peux pas retrouver mon chemin. Ne veux-tu pas m'aider, s'il te plaît? Et pardonne-moi pour ma manière égocentrique. Je ne peux rien faire sans toi. Tu es mon guide. Aide-moi, Seigneur. Je me suis levé et j'ai dit Amen. J'ai ramassé mon mouchoir, mon manteau, je les ai ramassés, j'ai remis mon chapeau, repris mon fusil, je dis maintenant je vais m'éloigner du mieux que je peux le faire, du mieux de ma connaissance et je vais y aller directement, car je fais un cercle à quelque part, je ne sais pas où. Mais je vais aller là où tu me diras, Seigneur Dieu, mon guide. J'ai commencé à marcher de ce côté, j'ai dit, c'est ça, et je dois me le faire croire, je m'en vais de ce côté, je m'en vais droit par ici, je ne vais pas varier, je m'en vais par ici, je sais que je suis correct, je m'en vais de ce côté. En me dirigeant de ce côté, je me dirigerai vers le Canada, voyez. Juste à ce moment, j'ai senti quelque chose me toucher sur l'épaule, une main. Il me semble comme une main d'homme. Rapidement, je me suis retourné pour regarder. Il n'y avait personne ce temps-là. J'ai pensé, qu'est-ce que c'était? Voici, ma Bible est devant moi. Dieu mon guide et juge, se tient ici. J'ai juste regardé en haut, et juste derrière ce côté, cette brume s'est retirée jusqu'à ce que je puisse voir la tour en haut du mont Hurricane. Me dirigeant directement à l'opposé de ça, du mieux de mon habileté de chasseur, je m'en éloignais. Il se faisait très tard le soir alors. Je me suis tourné très vite, me dirigeant comme ceci. J'ai pris mon manteau et j'ai levé mes mains. J'ai dit, guide-moi là-bas, ô Dieu, tu es mon guide. J'ai commencé. Je devais monter droit dans les falaises et tout pour me rendre là de plus en plus tard. Ensuite, il faisait noir. Les chevreuils sautaient devant moi et tout. Je ne pouvais penser à rien d'autre que de me garder moi-même en une direction, droit en haut de cette montagne. Et je savais que si je pouvais me rendre à la tour, M. Denton et moi, je l'avais aidé à poser la ligne de ce printemps-là. Nous avions cloué le fil de téléphone du mont Hurricane jusqu'en bas, environ 3 500 ou 4, jusqu'en bas au camp, et ça descendait un petit sentier, mais la neige sur ça, on ne pouvait pas voir le sentier, voyez. Et le vent qui soufflait tout, c'était noir et tempétueux, et en allant, on ne pouvait pas voir où on en était. Bien, la seule chose que je savais faire, après les ténèbres, je ne savais pas, je savais que je m'en allais dans une direction, c'était juste en haut de la montagne, car je devais aller en haut de la montagne, la tour était juste au sommet de la montagne, et j'avais environ 6 000 à faire pour me rendre là. Pensez-y, cette brume s'était dégagée sur une distance de 6 000, juste un trou pour que je la voie. Et ensuite, je transportais mon fusil dans cette main-ci, je tenais cette main là-haut, car j'avais cloué le fil sur les arbres comme ça en descendant, le fil téléphonique à la cabine pour qu'il puisse parler à sa femme, et ensuite appeler de là de la montagne. Je l'avais aidé à la descendre, et j'avais ma main en haut comme ceci, disant, « Oh Dieu, laisse-moi toucher cette ligne !» Je marchais, et j'avais mal au bras, fatigué, je pouvais à peine le tenir, je devais le descendre, je changeais le fusil de main, je l'ai mis dans l'autre, j'ai reculé quelques pas afin d'être sûr de ne pas le manquer, ensuite levé ma main, recommencé à marcher, Il se faisait tard, ténébreux, le vent sifflait. Oh, je saisissais une branche, je disais, c'est ça. Non, ce n'était pas cela. Oh, c'est, ne laissez pas cela vous donner un son incertain. Après quelque temps, lorsque j'étais sur le point de démissionner, ma main toucha quelque chose. Oh, Matt, je venais d'être sauvé quand j'étais perdu. Je tenais ce fil. J'ai laissé mon fusil tomber au sol, j'ai enlevé mon chapeau de ma tête et je me suis tenu là. J'ai dit, oh Dieu, quel sentiment c'est que d'être trouvé lorsqu'on est perdu. J'ai dit, jusqu'au bout de ce fil, je ne le délaisserai pas. Je vais me tenir après ce fil. Ça me guidera directement là où tout ce qui m'est cher sur cette terre se trouve, juste en bas là. Ma femme et mon bébé, terrifiée, ne sachant pas où j'étais, ne sachant pas comment faire un feu, ne sachant pas quoi faire, et les vents qui soufflaient, et les branches qui se cassaient, tombaient des arbres. Il n'était pas question que je lâche ce fil. C'était une expérience horrible, et une grande expérience de retrouver mon chemin. Mais ce n'était pas la moitié de cela. Un jour, j'étais perdu dans le péché. J'allais d'église en église, essayant de trouver quelque chose. Je suis allé aux Adventistes du septième jour, ils m'ont dit, garde le sabbat, arrête de manger de la viande. Je suis allé à l'église baptiste, la première église baptiste a dit, lève-toi et dis-leur que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je te baptiserai, c'est ça. Il n'y avait rien, mais un jour, dans une petite remise à charbon, j'ai levé mes mains, j'ai saisi quelque chose, ou puis-je dire quelque chose s'est emparé de moi. C'était la ligne de vie, le guide. Et il m'a conduit en sûreté jusqu'ici. Je ne vais pas enlever ma main de cette ligne. Je tiens mes mains vers lui. Que les credos et les dénominations fassent ce qu'ils veulent. Je me tiens après le guide. Car tout ce qu'il y a jamais eu sur la terre et tout ce qu'il y a au ciel, tout ce qui m'est précieux est au bout de la ligne. Il m'a conduit en sécurité jusqu'ici. Je lui ferai confiance le reste de la route. Lorsque lui, le Saint-Esprit, viendra, il vous guidera et vous conduira dans toute la lumière. Les amis, il m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Cela m'a rendu ce que je suis. Je pourrais vous l'introduire avec plaisir. C'est le seul guide dont je connaisse quelque chose pour ici, sur la terre ou là-haut. Il est mon guide. Lorsque je vais à la chasse, il est mon guide. Lorsque je vais à la pêche, il est mon guide. Lorsque je parle à quelqu'un, il est mon guide. Lorsque je prêche, il est mon guide. Lorsque je dors. Et lorsque je viendrai à mourir, il se tiendra là, à la rivière. Il va me guider de l'autre bord. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me corrigeront et me guideront de l'autre bord de la rivière. Prions. Père céleste, je suis si reconnaissant pour le guide, celui qui me guide. Oh, parfois, Père, je ne puis l'entendre près de moi, je deviens effrayé. Je le veux proche de moi, car je ne sais pas à quelle heure je devrais traverser la rivière. Je veux qu'il soit près de moi. Ne me laisse jamais, Seigneur. Je ne peux pas parler, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas chasser dans les bois, je ne peux pas pêcher sur la rive, je ne peux pas conduire mon auto. Il n'y a rien que je puisse faire sans lui. Tu es mon guide. Comme je suis heureux de dire à cette congrégation ce matin, ce soir, comme tu m'as guidé dans toutes ces choses, comme tu m'as conduit. Je pensais l'autre jour, pas plus que quelques années déjà, me tenant en bas ici dans la rue, parce que ma famille agissait mal. Personne ne voulait me parler. J'étais seul pour fraterniser. Personne ne voulait rien savoir de moi. Il disait, ton père est un contrebandier. Et Seigneur, ainsi personne ne voulait me parler. Et j'aime les gens. Mais un jour, lorsque j'ai saisi cette ligne, maintenant j'y pense, Seigneur. Je dois m'évader, m'en aller dans les bois pour avoir un peu de repos. Qu'est-ce qui a fait ça? Pas la personnalité, pas l'éducation. Je n'en ai pas, mais c'était toi, Seigneur. Toi, Seigneur, tu m'as laissé atteindre la cible. Tu m'as laissé attraper des gros poissons parce que tu savais que je voulais le faire. Tu m'as donné des pères et des mères. Tu m'as donné des frères et des sœurs. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné une épouse. Tu m'as donné une famille. Tu es mon guide, Seigneur. Laisse-moi tenir ta main. Ne me laisse jamais lâcher prise. Si une main devient fatiguée, je changerai juste de main. Aide-moi, Seigneur. Et maintenant, que chacun ici présent s'empare de cette même ligne de vie. Seigneur, le Saint-Esprit qui est notre vie, la ressource donnant la vie, qu'il puisse nous guider tous vers ce pays heureux là-bas, où les peines de la vie seront finies et notre labeur sur la terre sera terminé. Et ensuite, il n'y aura plus de vieillesse, plus de gens faibles, plus de soirées fatigantes. Il n'y aura plus de crises et de prières, plus d'appels à l'autel, mais nous serons jeunes à jamais. La maladie et la tristesse n'existeront plus. Il n'y aura plus de péché. Nous vivrons dans la justice de Dieu à travers tous les âges à venir, à travers une éternité sans fin. Accorde-le, Père. Et maintenant, Père, s'il y en a ici ce soir qui ne se sont jamais emparés de cette ligne de vie, qu'ils puissent la trouver dès maintenant. Et que le Saint-Esprit qui a guidé, je peux dire de mon cœur, avec ma main sur ta parole, il a toujours eu raison. J'ai tort bien souvent, mais il a raison. Qu'il reste avec moi, Seigneur. Laisse-moi rester avec lui, et que d'autres ici qui ne le connaissent pas ce soir, qu'ils puissent s'emparer de sa main qui ne change pas, afin qu'ils soient guidés là-en bas. Et un jour, nous irons à la rivière. Ce sera brumeux ce matin-là aussi. La vieille mer va faire rage, le vieux Jourdain, les vagues éclaboussant, la mort qui étouffe, la vie hors de nous. Mais Dieu, je n'aurais pas peur. J'ai réglé ça il y a bien longtemps. Je voulais juste enlever le casque comme un guerrier, tourner autour, regarder derrière le sentier pour voir où cette ligne m'a conduit, voir tout le désert que j'ai traversé et chaque parcelle de ronces et chaque amas de pierres où je me suis blessé. Mais tenons le fil, comme tu as dit, le poète a dit, quelques-uns à travers les eaux, et quelques-uns à travers les inondations, quelques-uns à travers de grandes épreuves, mais tous à travers le sang. Et nous prendrons ceci, la vieille épée ici qui m'a protégé le long de la route, nous la remettrons dans son fourreau, criant, « Père, fais traverser le bateau ce matin, je rentre à la maison. » Tu seras là, Seigneur. Tu l'as promis. Tu ne peux échouer. et bénisse chacun qui est présent ici maintenant. Et s'ils ne savent pas comment tenir cette ligne et ne l'ont jamais touchée, que des mains saintes s'élèvent maintenant, des mains nécessiteuses, des mains désireuses, et touchent cette ligne qui les conduira au désir de leur cœur, à la paix parfaite et la satisfaction, leur repos en Christ. Avec nos têtes inclinées, y aurait-il des mains qui s'élèveraient et diraient « Accorde-le-moi, tiens ma main !» Oh, que Dieu vous bénisse. Lorsque le chemin devient lugubre, précieux Seigneur, reste près de moi. Lorsque ma vie est presque à sa fin, à la rivière je me tiendrai, guide mes pieds, tiens ma main, prends ma main, précieux Seigneur, conduis-moi. Y en aurait-il un autre qui lèverait sa main en disant, Seigneur, je veux sentir le toucher de la ligne de vie ce soir. Je veux sentir que Christ m'a pardonné mes péchés. Je veux être une nouvelle créature à partir de cette heure. Que Dieu vous bénisse. Et n'aurait-il un autre disant, laisse-moi le toucher, Seigneur. Laisse-moi m'abandonner moi-même. Dieu te bénisse. Laisse-moi m'abandonner moi-même. Dieu te bénisse. Et le trouver, Seigneur, en toi. Oh, que Dieu vous bénisse, et Dieu vous bénisse, c'est ça. Laisse-moi m'abandonner moi-même, Seigneur. Laisse-moi oublier. Dieu vous bénisse, frère. Laisse-moi, Dieu vous bénisse. Laisse-moi juste perdre toute ma connaissance. Dieu vous bénisse. Ne faites pas confiance au plan des hommes. Suivez ce guide. Il vous guidera dans toute la vérité. Conduis-moi, Seigneur Jésus, conduis-moi. Dieu vous bénisse, là en arrière. Oh, il y a eu bien des mains levées, désirant le salut. Maintenant, pendant que nous sommes, vous, l'autel ici, on ne peut pas faire d'appel à l'autel, car les gens sont assis partout alentour, mais il est juste ici. Vous le savez très bien, lorsque vous avez levé votre main, quelque chose dans votre cœur, Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Êtes-vous disposé? Alors il y a un bassin ici rempli d'eau. Il y aura simplement du temps pour le baptême. Prions. Notre Père Céleste, ce petit message livré ce soir, par une voix enrouée, le Saint-Esprit a dû aller quelque part. Il est allé là où il avait l'intention. Et il y en a plusieurs seigneurs ce soir, près de 15 ou 20 qui ont levé leurs mains. Ils ont besoin du guide. Ils réalisent qu'ils essayent de se bluffer eux-mêmes. Ils essayent de dire « Je suis correct ». Mais tout au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas corrects. Et ils veulent te sentir, Seigneur. Ils veulent le guide. Ils veulent s'inscrire. Tu n'es jamais trop occupé. Ils veulent s'inscrire pour le voyage. Ils ne savent pas comment en arriver là. Personne ne sait comment les amener là. Tu es le seul. Ils viennent pour le guide pourvu de Dieu, le Saint-Esprit. Ils ont levé leurs mains. Et que le Saint-Esprit est guide, descende sur eux. Pardonne chaque péché. Pardonne leurs iniquités. Emporte-les dans le corps de Christ ce soir où ils peuvent sentir le courant de Dieu coulant à travers cette ligne qui les conduira jusqu'au Jourdain et à travers le Jourdain jusqu'à la terre promise. Qu'ils puissent être directement derrière la parole. La parole dit « Repentez-vous et ensuite soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. » Qu'ils n'essayent pas d'une autre manière. Qu'il puisse être juste derrière la parole, car il est celui qui guidera. Ce sont les marches pour grimper jusqu'à ce qu'on s'empare du guide. Accorde-le, Seigneur, qu'il puisse t'appartenir. Ils sont dans tes mains maintenant, comme des trophées. Aucun homme ne peut les ravir. Je crois que tu les prendras comme des gens sauvés. Je crois qu'ils ont levé leurs mains. Ils n'auraient pas pu faire ça par eux-mêmes sans que quelque chose leur parle. Et c'était toi, Saint-Esprit et guide. Il voit l'heure qui clôture. La brume se répand sur la terre. De grands credos et ces choses qui se réunissent ensemble. La confédération des églises. Ils se réunissent ensemble. Et ô Dieu, comment ils essayent de dire. Tous ceux qui auront de l'originalité devront partir en Alaska. Et toutes ces choses qui sont menaçantes. Ce n'est pas nouveau pour nous. Le grand guide nous a montré cela dans le sentier de la parole. Nous faisons juste passer à travers cette partie de cela. Père et Dieu, tu leur as parlé ce soir, et je te les donne comme trophée de la parole au nom de Jésus. Maintenant, déposer sur cette chair ici, Père, sont des mouchoirs. C'est pour des gens malades. Un petit bébé peut-être, une mère, une sœur, un frère, même des petites épingles à cheveux pris dans cela. Et maintenant, je les tiens près de moi. Maintenant, on nous enseigne dans la Bible qu'ils ont pris du corps de Paul des mouchoirs et des tabliers, et des gens malades furent guéris, des esprits impurs quittaient les gens. Maintenant, nous réalisons, Seigneur, que Paul était un homme, il était juste un homme. Mais c'était l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui qui a béni les mouchoirs, et la foi que les gens avaient qu'il était ton apôtre. À présent, Paul n'est plus parmi nous, mais Paul le guide, il est toujours ici. Et Dieu, je prie que tu bénisses ces mouchoirs et que le guide les conduise à l'endroit, à cet abandon complet. On nous dit encore que lorsqu'Israël suivait leur guide et qu'ils sont descendus jusqu'au Jourdain, jusqu'en bas, plutôt à la mer Rouge, dans le sentier même du devoir, ils furent arrêtés et le guide les a conduits là-bas. Pourquoi ? Pour montrer sa gloire. Et lorsque tous les espoirs furent partis, alors Dieu a regardé à travers cette colonne de feu, et même la vieille mère morte a eu peur et a reculé, et il y a eu un sentier tracé pour Israël pour marcher jusqu'à la terre promise. Vraiment, Seigneur, tu es toujours le même Dieu. Ces gens peut-être sont chrétiens, peut-être sont-ils directement dans le sentier du devoir. Mais ils ont été amenés dans cet endroit coincé, où la maladie les a coincés. Regarde à travers le sang de Jésus ce soir. Le démon va avoir peur. Il va reculer et tes enfants franchiront la promesse de la bonne santé. Accorde-le, Père. Je les envoie de mon corps au leur au nom de Jésus-Christ. J'élève cette congrégation devant toi par la foi. Je les conduis directement à l'autel glorieux de Dieu, là-haut au ciel, où chaque désir de maladie, quoi qu'ils aient de mal, quoi qu'ils ne marchent pas dans leur vie, n'importe où, ô Dieu, sanctifie-les qu'ils t'appartiennent. Guéris-les, Père, et que la puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe vivifie leur corps mortel et rend-les de nouvelles créatures en Christ. Donne-leur une bonne santé et de la force pour te servir. Souviens-toi de moi, ô Seigneur. Je suis ton serviteur. Aide-moi, me tenant dans le besoin de la prière. Et je prie que le Saint-Esprit nous guide, nous utilise et nous conduise jusqu'au jour où nous verrons Jésus-Christ face à face à sa glorieuse venue, lorsque nous le rencontrerons dans les airs à l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Je l'aime. L'aimez-vous parce qu'il m'a aimé le premier et il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, si vous ne vous aimez pas les uns les autres que vous voyez, comment pourrez-vous l'aimer lui que vous n'avez pas vu? Maintenant, lorsque nous chanterons « Je l'aime », donnons-nous une bonne poignée de main d'amour à notre voisin. « Je l'aime ». Frère Branham serre la main avec ceux qui l'entourent et il dit « Dieu vous bénisse, frère Neville ». Et la congrégation continue de chanter notre l'éditeur. Sur le bois du calvaire, maintenant, levons nos mains vers lui. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier, et il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Pour une bonne chanson, voudriez-vous en entendre une? J'ai su qu'on avait un conducteur de chant évangélique ici, de l'Indianapolis. Je crois qu'il chante au Kedel Tabernacle, est-ce vrai? Très bien, monsieur. C'est sa place au Tabernacle Kedel. Combien se souviennent de He Howard Kedel? Oh my! Que Dieu ait le repos de sa précieuse âme. L'oiseau moqueur de l'air, une femme que j'aimais bien entendre chanter, mieux que n'importe qui que j'ai jamais entendu quasiment dans ma vie, c'était Madame Kedel. Chantant, quand vous avez quitté votre chambre ce matin, avez-vous pensé à prier au nom de Christ, notre Sauveur? Comme un bouclier aujourd'hui. Et juste de l'autre côté de la rue, là un matin, dans une vieille petite cabane de deux chambres, je me suis levé. J'étais juste là, prêt à entrer et faire un feu. Le poêle ne voulait pas chauffer. J'ai essayé de le partir et le vent est descendu, éteignant cette chose juste dans ma face. Et il faisait froid. et j'étais quasiment gelé. Et la gelée partout sur le plancher, et moi, nu-pied, essayant de faire partir ce pauvre vieux poêle de métal, un petit tuyau par-dessus ça. Et j'ai juste, Méda et moi étions mariés depuis peu de temps. Et j'essayais, le vieux bois était trempé, ne voulait pas brûler. Et j'étais assis là, j'ai pensé, Romain, je vais essayer de nouveau. Je devais aller travailler, et j'éventais ce vieux poêle comme ça. Et je me suis étiré, et j'ai ouvert la radio, et elle commença à chanter. Quand tu as quitté la chambre ce matin, as-tu pensé à prier? Je suis tombé droit sur le plancher. Au nom de Christ, notre Sauveur, comme un bouclier aujourd'hui. Oh, comme j'aime entendre cette femme. Lorsque je traverserai la rivière un jour, je crois que j'entendrai Madame Kedel assise là-bas, vous savez. J'ai toujours fait un rendez-vous. Sur ce côté de la rivière, il y a l'arbre toujours vert. Vous savez, l'arbre de la rivière, il y a un chœur angélique qui chante jour et nuit, car il n'y a pas de nuit là. Il chante toute la journée, voyez. Je me trouverai une place, je m'assiérai, j'écouterai ça. Je crois que j'entendrai Madame Kedel là-bas, chantant. Dieu bénisse notre frère. J'ai oublié son nom. Qui êtes-vous, frère? Frère Ned Woolman chantera pour vous maintenant. Frère Woolman, on est content de vous avoir avec nous ce soir.